Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Hein. Je vous apporte les salutations de l'Église de Mercourt aussi. J'aimerais vous lire trois textes, trois lectures d'affilée. Et je pense que, alors que je passerai de l'une à l'autre, vous verrez tout à fait quel est le lien entre elles. Alors si vous voulez les relire à la maison, le premier c'est dans Exode au chapitre 15. Donc je lirai les versets 23 à 26. La deuxième lecture, c'est dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2. Je lirai les versets 19 à 22. Et la troisième lecture, c'est Ésaïe 38. Je lirai les versets 1 à 5, 15, 17 et 21. Voilà. Alors je vous lis les textes. Moïse fit partir Israël de la mer des Jonques. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Deux rois 2. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho, Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est la stérilité. Il dit, apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et l'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Et dans Ésaïe 38, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria l'Éternel. Il disait, « De grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots, « Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici que j'ajoute 15 années à tes jours. » Et donc au cours de cette histoire, Ézéchias va être guéri et il va faire un cantique dont j'aimerais vous lire un ou deux versets. Donc Ézéchias s'adressant à Dieu dit ceci, « Que dirais-je ? Il m'a répondu, c'est lui-même qui a agi. » Je marcherai humblement pendant toutes mes années à cause de l'amertume de mon âme. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même, tu as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Ésaïe avait dit qu'on apporte un paquet de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Alors je pense que vous avez compris, en écoutant ces trois lectures, on a trois histoires à quelques siècles d'affilée, que le sorte de fil rouge qui traverse ces histoires, donc qui traversent la Bible au travers de ces histoires, et également qui traversent nos vies à nous, eh bien c'est le thème de l'amertume. L'amertume et son traitement. L'amertume, c'est une expérience commune à tous les hommes. Je pense que si vous n'êtes jamais passé par l'amertume, vous êtes vraiment très privilégié. L'amertume, c'est la caractéristique de la vie sur Terre, de l'être humain déchu. L'amertume, elle commence peut-être dans la cour de la création, quand on se fait rejeter par un groupe d'enfants. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, parce que je sais pas, on n'a pas la bonne couleur de peau, ou on n'est pas de la bonne classe sociale. L'amertume, vous allez la retrouver au travers du premier chagrin d'amour, la première, ce qu'on appelle la déception sentimentale, le premier échec professionnel, et puis il peut y avoir des choses beaucoup plus graves. On peut passer par des maladies gravissimes, on connaît le deuil, toutes sortes de choses peuvent dysfonctionner par rapport à nos attentes, et souvent nos attentes légitimes, par rapport à ce qui est considéré comme normal. Et donc la réaction en nous, dans notre ressenti à un événement négatif, en particulier s'il est traumatique, eh bien ça va être l'amertume. On subit des circonstances extérieures qu'on n'aime pas, qui sont agressives, qui sont désolantes, et à cette occasion donc on va sentir en nous monter ce sentiment qui est l'amertume. Alors le point commun entre ces trois histoires, j'aimerais essayer de faire un peu un panorama général et ensuite on va les reprendre une par une. Le point commun entre ces trois histoires, c'est que déjà, il y a donc la présence de l'amertume à un point quelconque du voyage terrestre. Et nous devons bien comprendre que comme toutes les autres histoires que nous lisons dans la parole de Dieu, en fait ces histoires sont un miroir pour notre vie en nous. C'est une manière que Dieu a de nous parler sur ce qui nous est arrivé pour qu'on le comprenne, pour peut-être ce qui va nous arriver, pour qu'on s'y prépare. Et donc on voit qu'on a là trois histoires qui se situent à un point de voyage terrestre. Donc ici on voit dans la première histoire de l'Exode, les Israélites étaient à peine partis. C'est génial, on est libre, à nous la vie, et puis trac, amertume. Ça correspond un peu peut-être pour nous à l'âge de la jeunesse. Le deuxième passage que je vous ai lu est un passage qui pourrait parler du milieu de vie. On va y revenir. Et le dernier passage, s'agissant de la mort, clairement parle d'une fin de vie. Et dans ces trois passages que je vous ai lus, dans ces trois histoires, on parle bien de quelque chose de grave, d'une crise majeure. C'est pas le petit inconvénient, le petit caillou dans la chaussure. Là, dans ces trois passages, la vie est mise en danger, la vie devient impossible. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi ça m'est arrivé au moins dans une période spécifique de ma vie, où alors que par ailleurs j'étais en pleine santé et que extérieurement tout allait bien, j'étais arrivé à un point dans mon itinéraire personnel où je me demandais comment je pouvais continuer à vivre. Alors voilà, on a dans ces trois histoires cette présence de l'amertume, et l'amertume peut être vraiment mortelle. Et puis dans ces trois passages, on a l'intervention de Dieu. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous, pour tout le monde d'ailleurs, parce que passer par l'amertume, c'est le lot commun de l'humanité, et si on dit ça, ben, oui, voilà, on fait qu'exposer ce que vous avez dans les journaux tous les jours, et ce que vivent des tas d'hommes et de femmes ordinaires autour de vous, tôt ou tard. Donc je dirais que ça n'a rien d'intéressant en soi. L'histoire devient intéressante parce que justement, là, Dieu intervient. Et dans ces trois histoires, ce qui m'a frappé, c'est le même schéma. Et vous devez comprendre que les écrivains bibliques, je ne sais pas si vous aimez aller sur Internet, en particulier des sites comme Wikipédia, il y a des liens partout. Donc vous lisez une phrase, il y a un mot en bleu, vous cliquez dessus, ça vous ouvre sur une autre histoire, une autre partie du monde, etc. Et tout ça, c'est interconnecté. Et c'est ça, la Bible. Vous avez des histoires qui ont été vécues par des gens à des siècles de distance, mais quelque part, le fait qu'elles soient rassemblées dans le même livre les interconnecte. Et donc, dans ces trois histoires, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Dieu intervient. Dieu va accorder la guérison dans les trois cas. Et dans les trois cas, Dieu agit sur la base de la promesse. Et c'est pour ça que j'aime la parole de Dieu, parce que découvrir que l'amertume est là, bon, on le sait tous, ça n'a que peu d'intérêt. On ferait peut-être tout au contraire pour l'oublier, aller au cinéma pour voir un film ou une belle histoire d'amour. Mais là où c'est intéressant, c'est que Dieu agit dans cette amertume. On n'est pas seul dans l'amertume. Dieu intervient. Également, un point commun entre ces trois histoires, c'est qu'il y a la médiation d'un homme de Dieu. C'est-à-dire que dans les trois cas, un homme de Dieu intervient et il va employer un moyen apparemment dérisoire. Dans la première histoire, Moïse prend un bout de bois, il le jette dans une source. C'est complètement dérisoire. Une source dans le désert, un puits, c'est des milliers, des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau. Or, bon, cette eau dans l'histoire est imbuvable, donc c'est catastrophique, les gens vont mourir dans le désert, et Moïse il arrive, il jette un bout de bois. Tu m'attends, c'est quoi cette histoire là? C'est rien quoi, n'empêche que le bout de bois il rend l'eau douce, voilà. Dans le deuxième cas, c'est quasiment la même histoire, quelques siècles de distance, même problème, il y a tout un pays qui est dans la stérilité parce qu'il n'y a pas d'eau. Et puis, en fait, se faire amener une assiette avec du sel de cuisine, quoi. Il le jette dans l'eau, et l'eau devient buvable. T'y attends, notre rationalité est mise à dure épreuve, quoi. C'est quoi l'explication à ça? Et dans le troisième cas, peut-être dans le troisième cas, on comprend mieux, Ézéchias était très malade, il avait un genre d'ulcère, à l'époque où on ne savait pas soigner les infections, et donc le prophète lui fait mettre un emplâtre de figues. Bon là peut-être on comprend mieux une raison médicale. N'empêche que c'est quand même un peu dérisoire, hein, vous allez mourir, et puis le prophète arrive en disant bon, allez mettez des figues là, et puis bon, vous avez 15 ans de vie de plus, on aimerait que ça marche comme ça dans le monde moderne. Voilà. Et donc, on a envoyé ce que j'appellerais un support dérisoire, n'empêche qu'il y a une puissance divine qui est libérée. Dans les trois histoires, vous avez un horizon nouveau, vous avez la possibilité de sortir d'une impasse, la possibilité pour aller, d'aller de l'avant, alors que vous considériez que c'est fini. Quoi. Et j'aimerais signaler que ces trois histoires, pour nous, chrétiens, renvoient à l'importance de l'Église. Parce qu'il y a le serviteur qui est là. Et c'est pas savoir l'homme de Dieu, l'homme providentiel. C'est que, de nos jours, Dieu agit au travers de son Église, au travers du rassemblement des chrétiens. Le Christ est là, parmi nous. Et donc, face à parfois des choses gravissimes, face à toute une amertume, eh bien, au sein de l'Église, je le crois profondément, je le vis, Dieu débloque des solutions. Dieu débloque des restaurations, des guérisons. Vous voyez, le fil rouge qui relie ces histoires, c'est donc l'intervention de Dieu face à une amertume gravissime, et nous devons comprendre que Dieu ne peut ni ne veut nous éviter l'amertume. Être chrétien, ça veut dire qu'on est sur un nuage et que rien ne m'atteindra. Ni dans ma santé, ni dans mon travail, ni dans ma famille. Si je vous prêchais ça, je serais un menteur et je serais en train de manquer gravement de réalisme. Dieu ne peut pas, ni ne veut pas non plus d'ailleurs, nous éviter l'amertume. Regardez lui-même que Dieu a donné son Fils pour nous et que le Fils de Dieu, qui était parfait en pensée, en parole et en action, qui n'avait aucunement besoin d'une correction quelconque, eh bien, ce Fils de Dieu lui-même a bu la coupe amère et nous a donné cet exemple. Donc si le Fils de Dieu a bu la coupe amère, qui suis-je moi pour arriver en disant « Attends, je suis chrétien, Seigneur, tu m'épargnes ici, tu m'épargnes ça, je vais passer par là, je ne peux pas connaître ceci. » Bon. Donc Dieu ne nous épargnera pas l'amertume, il faut être clair, je peux donner ce message aux anciens parmi nous, je peux le donner pareil aux jeunes, il faut le savoir. Mais ce que Dieu veut, et c'est pour ça que ces histoires nous sont racontées dans la Bible, c'est qu'il veut que nous puissions, au travers de l'amertume, découvrir comment il agit. Pour qu'on sorte grandi, qu'on sorte édifié. Il dit, voilà, moi j'ai des cicatrices, j'ai été atteint à telle ou telle période de ma vie. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a profondément affecté. Mais au travers de ça, j'ai découvert la main de Dieu que je n'aurais pas découvert autrement. J'ai appris quelque chose de lui. Et j'arriverai dans l'éternité peut-être avec des cicatrices, mais en portant déjà en moi l'image de ce Dieu qui promet et de ce Dieu qui agit. Et donc, vous voyez, Dieu nous laisse passer par l'amertume parce qu'il a prévu un moyen d'en sortir, un enseignement au sein de cette amertume. Et donc, quelque part, il met sur nos épaules clairement la responsabilité de sortir de l'amertume. Moi, je ne suis pas responsable des amertumes, de l'amertume qui peut monter en moi quand il m'arrive quelque chose. Parce que je suis un homme, et c'est normal. Et je suis responsable de gérer cette amertume pour en sortir. Et mon message aujourd'hui, il est là, et ça sera ma conclusion. Donc vous voyez, dans ces trois histoires, dans ce fil rouge, les choses se mettent en place, mais Dieu intervient, et quelque part, les gens qui ont vécu ces histoires, étaient responsables, puisque Dieu était intervenu en leur faveur, de faire quelque chose par rapport à l'amertume qu'ils avaient connue. Alors maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais reprendre ces histoires une par une pour creuser ça de manière un peu plus précise. Et donc, en fait, je voudrais vous les relire, comme ce sont des textes courts. Je commence par cet épisode de l'Exode. Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs, qu'ils prirent la direction du désert de Chour, et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ?» Et Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et c'est là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et ça a donné dans notre langue française le beau prénom de Raphaël, « Dieu guérit ». Alors, vous voyez la situation de départ, à peine partis dans leur voyage, ils sont passés par la mer Rouge, ils ont vécu une expérience extraordinaire. Là, vous sortez de là, vous êtes boostés à mort. Hein. Ils ont vu les ennemis rétamés, ratatinés, c'est formidable, on s'enfonce dans le désert direction la terre promise, on part la fleur au fusil, c'est génial. Et voilà que trois jours après, c'était rien, quoi. Trois jours. L'eau et pas buvable, et on est en plein désert. Alors je vais autant vous dire, désert du Sinaï, 3h de l'après-midi, il fait 45 degrés à l'ombre, c'est la grosse catastrophe. Hein. La vie est atteinte en profondeur, c'est pas le petit ennui. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc la réaction, c'est la révolte. C'est la révolte. Le peuple murmura contre Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est que il est bien écrit, le peuple murmura. C'est-à-dire, c'est pas nos deux fortes têtes, vous savez, dans un groupe humain quelconque, ça va être toujours des gens qui vont être prêts à râler, quoi. Il y a des râleurs de service dans tous les groupes humains. Là, c'est pas ça, c'est le peuple, c'est collectif. Et pour moi, ça attire mon attention, si vous voulez, sur la dimension symbolique. Parce que la révolte, l'amertume, face à ce qui est négatif, et qui est peut-être légitimement, d'ailleurs, hein, scandaleux, c'est une expérience universelle. Les gens se révoltent. Je me révolte face à la maladie, je me révolte face au chômage, je me révolte face à l'injustice, je me révolte face à la mort, qui est ce qui est certainement le plus scandaleux. C'est universel de se révolter. Et donc regardez autour de nous, regardez dans vos familles, regardez sur vos milieux de travail, et bien, de manière universelle, les gens se révoltent contre Dieu. Ouais, s'il y avait un Dieu, tu crois que ce serait comme ça? Et regarde les enfants qui meurent, et regarde le tsunami, et regarde ce qui m'arrive, pourquoi moi? Bon, vous connaissez le discours, et souvent nous nous sommes pris à partie par ce genre de discours. Donc la situation de départ dans ce texte est tout à fait catastrophique, c'est évident, mais il va y avoir une résolution de la crise, et une résolution rapide. Donc le peuple murmure et Moïse a la bonne réaction. Moïse va prier, il va chercher la solution en Dieu. Moïse cria à l'Éternel. Et donc Dieu lui montre un certain bois. Alors La Bible ne nous donne aucune précision. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'explication scientifique à ça. Parce que je conçois qu'un certain type de bois qu'on râperait arrive à purifier l'eau d'un dé à coudre, voire d'un verre, mais certainement pas d'une source entière. Donc il ne faut pas aller chercher des explications rationalistes. Je crois qu'on a affaire véritablement à un miracle. Mais surtout, si vous voulez, il faut être clair, il y a un enseignement, c'est symbolique, c'est un miracle symbolique. Car, je vous relis encore, l'Éternel indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, et c'est là que l'Éternel lui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et là, moi j'ai les oreilles de l'exégète qui tink, qui les antennes qui sortent, on me parle de bois, ça me renvoie immédiatement au bâton que Moïse avait. Vous savez que c'est le bâton qui va frapper l'Égypte. C'est le bâton qui va transformer l'eau du Nil en sang. C'est le bâton qui va faire venir les sauterelles, etc. Avec lesquels il fait ses miracles, qui fait plier le pharaon, l'ennemi de Dieu. Et donc, ce bois que Moïse jette dans l'eau, clairement dans le passage, est présenté comme l'antithèse du bois qui a frappé l'Égypte. Et ceci nous rappelle la souveraineté de Dieu dans la mort comme dans la vie. Le même Dieu qui avait pu frapper les eaux du Nil, c'est la mort assurée pour tout le monde, l'eau devient du sang. Et bien le même Dieu qui résiste aux orgueilleux, il sauve les hommes. Et donc le bois va purifier la source. Donc il y a, si vous voulez, il y a comme un clin d'œil là-dedans, un enseignement, au-delà du miracle, au-delà du fait que corporellement, les gens sont sauvés, il y a cet enseignement. Dieu est souverain. Et donc il y a cette promesse. Donc la guérison se double d'une promesse, et la promesse est conditionnée à l'obéissance. Si tu obéis, je ne te frapperai pas des plaies qui ont atteint l'Égypte. Affirmation solennelle de la volonté de Dieu de nous guérir de toute amertume. Encore une fois, je répète, l'amertume ne nous sera pas épargnée. Fondamentalement, on est sur terre, et statistiquement, moi je m'attends à avoir un cancer quelconque. C'est statistique, peut-être que je passerai au travers. En tout cas, si ça m'arrive, je ne peux pas être surpris. Et donc j'aurai à devoir affronter cette amertume de la maladie gravissime. Mais j'ai la promesse de Dieu, que Dieu étant souverain, il est capable de me guérir de cette amertume. Soit de me guérir de la maladie elle-même, soit de permettre que je passe par cette maladie et que d'ailleurs j'en meure, mais sans amertume. D'accord ? Maintenant, j'aimerais passer à l'histoire suivante. Je vous la relis. Les gens de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et dans le pays, c'est la stérilité. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus, ni mort, ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Vous remarquez en lisant qu'on est sur virtuellement un décalque de l'histoire précédente. Quelques détails changent, mais c'est la même, globalement la même histoire. L'enseignement, cependant, n'est pas strictement le même. Donc, dans la situation de départ, on a des gens qui s'adressent, ça se passe à Jéricho, en fait. Certaines personnes disent qu'à cause de la configuration du sol, il est fort possible qu'effectivement l'eau ait été carrément radioactive, plus ou moins. En tout cas, on est près de la mer Morte, et c'est certainement une eau, les nappes phréatiques sont énormément chargées en minéraux. Et donc, on conçoit, ça paraît tout à fait effectivement rationnel, qu'à cet endroit-là, l'eau était très mauvaise pour la santé. Et donc, les gens disent, ça va, c'est quand même un beau pays, vous allez à Jéricho, il y a des palmiers, tout, le climat idéal, Mais l'eau n'est pas bonne. C'est-à-dire, il manque un élément qui est perçu comme vital. Et ça aussi, je vous fais remarquer que c'est une expérience universelle. Toute l'amertume de la nature humaine, elle est dans ce « mais ». Alors, le pays est beau, hein, il n'y a pas de problème, hein, tout pousse, mais l'eau est mauvaise. Remarquez combien de gens autour de nous, j'espère pas parmi vous, mais sont plombés par ce mot-là, mais, ou le mot si. Ah, tout va bien, mais mon patron, il pourrit la vie. Ah, tout serait vraiment idéal si seulement je gagnais au loto. Et mais, et si, et voilà. Et donc, voilà, et la vie, c'est un package. Et c'est un ensemble. Et si vous commencez à dire mais, si, etc., vous ne serez jamais heureux. Et je vous fais remarquer, enfin, vous pouvez le voir autour de vous, que chez certaines personnes, ce petit mais-là, ce petit si, c'est pas le poil à gratter. Ça prend des proportions gigantesques. Et je crois qu'on connaît tous des gens, on les voyait vivre. On dit, mais quand même, de quoi il se plaint celui-là? Si manifestement il a la santé, il a un bon boulot, regardez sa femme, quelqu'un de très agréable, très intelligent, regardez ses enfants, des beaux enfants, marche tout seul à l'école, il n'y a aucun problème. Et la personne, elle est dans l'amertume, mais dans l'amertume, parce qu'il y a un mais, parce qu'il y a un si. Parce qu'on lui a refusé une promotion, je sais pas quoi, et que ça s'est mis à s'aigrir là-dedans, parce que, je sais pas quoi, parce que l'enfant a eu un petit problème de santé, et que, voilà, on s'est aperçu qu'il avait que 9 dixièmes aux yeux, aux deux yeux, et comme le gamin, il voulait être pilote de chasse, et qu'il faut 10 dixièmes, il sera pas pilote de chasse, alors ça devient l'amertume. Bon, vous vous dites, bon, d'accord. Il y a plein de gens. Donc la situation de départ dans le texte, c'est ça. Il y a ce « mais » là. Et alors là, par contre, ils ont une réaction saine. Au lieu de râler, etc., ils vont voir le prophète. Si tu es un homme de Dieu, tu peux y faire quelque chose. Donc là, de ce côté-là, c'est bien joué. Ils s'adressent au prophète, et le prophète va demander leur collaboration. « Apportez-moi une assiette et du sel. » Et ça aussi, c'est symbolique, parce que si vous voulez liquider l'amertume dans votre vie, vous êtes joueur. Après tout, c'est votre vie. Dieu veut faire des miracles dans votre vie, mais quelque part, il faut collaborer. Il faut faire ce qu'il vous dit. Donc, ils vont chercher du sel, ils vont chercher une assiette, et puis, bon, là aussi, je ne prétends pas expliquer de manière rationnelle. Ça paraît sidérant. En plus, si vous prenez une eau qui est radioactive et chargée de minéraux, c'est pas en rajoutant du sel, vous allez régler le problème. Ça ne fait qu'augmenter la concentration de produits mauvais dans l'eau. Mais l'eau redevient saine. Et je crois que, pour moi qui le lis en tant que chrétien, à la lumière des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, moi, ça me parle. Vous savez tous que Jésus avait des exigences spirituelles et il les a formulées par des paraboles. En particulier, il nous parle de l'outre neuf. Il dit, voilà, moi, le message que je vous annonce, si vous le prenez avec votre moi ancien, vos petites habitudes de pensée, vos petites manières de faire, eh bien, ça va exploser. Ça ne va pas tenir le coup. Le contenant, il n'est pas bon. Il faut changer le contenant. Et Jésus dit, apportez-moi des plats neufs. Recevez mon message. En acceptant de laisser exploser des cadres, quelque part. Et le problème qui se pose souvent, c'est est-ce que tu acceptes une remise en question radicale? Est-ce que tu acceptes de changer? Moi, je veux bien te guérir, dit le Seigneur. Je veux bien te restaurer. Mais si toi, tu restes crispé, justement, sur tes petits mais et tes petits si, tu ne peux pas recevoir ce que j'ai à te donner. Amène-moi quelque chose de neuf, amène-moi un plat neuf. Et je le vois personnellement dans le ministère pastoral, hein, on voit parfois arriver des gens qui sont très désireux de sortir de situations difficiles, qui sont dans une amertume profonde, et il y a de quoi. En phase 1, je dirais, moi je me solidarise avec eux, je peux m'identifier à eux. Il y aura des gens qui ont vécu des choses très difficiles, et si j'étais à leur place, je serais dans l'amertume. Mais dans la phase 2, il faut en sortir. Il faut accepter de faire du neuf pour recevoir ce que Dieu donne. Et c'est là que ça peut coincer. Il y a des gens qui par exemple, ben, qui ont une haine gigantesque vis-à-vis de leurs parents, de manière classique. Et quand on commence, alors tant qu'on se solidarise avec eux, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont subi, voilà, c'est bien. Et bien, il y a un moment où on commençait à parler de pardon en disant, mais écoute, ce qui te détruit quelque part, c'est pas simplement les souvenirs que tu as de ton enfance, c'est la haine que tu as gardée contre ton père. Et donc, il faut envisager qu'à la lumière des exigences divines, Ton père, c'est un pauvre pêcheur, il faut lui pardonner. Parce que là, on ne veut pas. Là, c'est pas d'accord. Parce qu'on s'est structuré dans cette haine, d'accord ? On s'est structuré dans ce ressentiment. Et parfois, sur des dizaines d'années. Et donc, cette remise en question radicale, allez, je lâche mon fardeau, je lâche cette haine, quelque part, qui m'a fait vivre, qui m'a donné la niaque, pour parler poliment. Là, je ne veux pas. Oh, si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Et si tu veux de l'amertume, tu vas continuer à vivre avec et tu mourras dedans. Et là, l'accompagnant, que ce soit un psychologue, un pasteur, n'importe qui, ou un frère, une sœur qui cherche un peu à aider, l'accompagnant, ben, il y a un moment où il ne peut plus rien faire. Donc vous voyez, quand le prophète dit « apportez-moi un plat neuf, apportez-moi du sel », donc je vous demande une collaboration de votre part, changez la configuration, et là vous allez voir, là il va y avoir un miracle de Dieu. C'est ce que Jésus dira plus tard. Et le sel est symbolique, le sel, comme vous le savez, c'est halte à la corruption. Hein. Dans des climats comme ça, vous laissez une pièce de viande, même à l'ombre, dans un grand danger, elle devient inconsommable en moins de 2 jours, hein. Faute de réfrigération. Donc la seule manière de conserver, la seule manière d'arrêter la corruption, c'est le sel, mais parfois à dose massive. Donc, vous avez une dimension symbolique là-dedans. Le Seigneur demande d'apporter, d'accepter, de voir les choses autrement, et puis de désirer et de mettre en œuvre cette halte à la corruption dans votre propre cœur. Et comme dans le texte d'avant, eh bien, il y a la guérison est doublée d'une promesse. La promesse est donnée en réponse à l'obéissance. Les prophètes, les gens du coin ont fait ce que le prophète demandait. Ils ont emmené leur plat, ils ont emmené leur sel. Eh bien, il y a cette promesse. Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et l'eau fut assainie selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Je crois qu'il y a un jour où l'amertume vous atteint. Et vous pouvez peut-être passer longtemps, des mois et des années, à tourner en rond dans cette amertume. Mais il y a un moment où il faut en sortir, il y a un moment où la parole de Dieu résonne, il y a un moment où vous devez vous responsabiliser pour dire « J'en ai marre d'être dans l'amertume, je reçois la guérison de Dieu, je veux être assaini. » Et après, ben, vous avez aussi longtemps que vous pouvez vivre sur cette terre, où vous serez sans cette amertume. Vous aurez le souvenir de l'avoir eu, mais vous ne l'aurez plus. Et c'est ça l'effet de la parole de Dieu. D'accord ? Troisième histoire, Ézéchias. Donc je vous le relis. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Vous savez tous qu'il n'y a pas d'amertume pire que la mort. Là, c'est vraiment l'amertume avec un grand A. Et le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui, lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria l'Éternel, il disait, de grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Donc la situation de départ est très claire, et là le prophète, c'est se faire l'initiative du prophète. Le prophète annonce à Ézéchias, tu vas mourir. Et donc, comme je viens de vous dire, il n'y a pas pire amertume que celle-là. Que ce soit notre mort à nous ou celle de quelqu'un qui est proche, il n'y a pas pire chose qui puisse nous atteindre dans son caractère tellement définitif et total. Et donc Ézéchias a un bon réflexe, il va prier Dieu, il ne se révolte pas, mais il prie Dieu, il supplie Dieu. Et ça lui laissera, donc il va être sauvé de la mort. Alors ça peut nous paraître dérisoire, 15 ans, mais il faut voir que vu les durées de vie, l'espérance de vie à cette époque-là, 15 ans, c'était vraiment considérable. Quoi. C'était vraiment un beau cadeau. Quoi. C'est pas un petit truc. Ça lui laissait vraiment un horizon. Mais il va en garder une cicatrice, vous voyez, et il dit, je marcherai humblement pendant toutes mes années à cause de l'amertume de mon âme. Ézéchias n'oubliera jamais ce moment par lequel il est passé, où il avait été atteint, blessé. Et là aussi, il faut être réaliste, je ne veux pas vous prêcher les bisounours, ce n'est pas mon travail de prédicateur. Autant, je viens de vous dire, on doit, dans la volonté de Dieu, arriver à un stade où il n'y a plus d'amertume. C'est mon cas, je vous ai dit que, quelles que soient les raisons, et j'étais chrétien depuis longtemps et engagé dans le ministère, hein, c'est pas un truc de ma vie d'avant la conversion. J'ai un jour été, je me suis trouvé dans telle souffrance personnelle, impasse, que je ne voyais pas comment je pouvais continuer à vivre. Et le Seigneur est intervenu dans cette situation, miraculeusement d'ailleurs, par une simple parole, un verset de Bible, qui a fait exploser l'amertume dans laquelle j'étais. Et maintenant, je n'ai plus, quoi. Mais j'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié. Ça m'a laissé des souvenirs. Il y a cette cicatrice-là, comme celle d'Ézéchias. D'accord ? Donc ça, c'est la situation de départ. Et puis, donc, Ézéchias a une réaction saine et il va être sauvé. Et ça se passe comment ? Ésaïe va jouer le rôle d'un médecin, on va dire. Il dit, voilà, apparemment, Ézéchias avait un ulcère. Vous savez, à l'époque, la médecine n'existait quasiment pas. Et donc, des choses qui, de nos jours, se régleraient en 3 jours avec une bonne petite intervention chirurgicale, une bonne dose d'antibiotiques, et voilà, ben, là, c'était mortel, quoi, à l'époque. Et on va mettre des figues sur cet ulcère. Ça paraît trivial, quoi. Peut-être qu'il y a des vertus médicales, je ne sais pas. Hein. Mais ce qui est certain dans ce passage, ce que le passage veut montrer, c'est que l'obéissance à ce conseil débloque l'action miraculeuse de Dieu. On aurait pu dire, attends, je suis mourant, donc c'est un appareil avec des figues. Bon, laisse-moi mourir tranquille, ne m'ennuie pas avec des figues. Bon. Et non, Ézéchias, il écoute ce que dit le prophète, et on lui fait un emplâtre de figues. Et ceci nous rappelle que ça peut paraître trivial, mais pour combattre l'amertume, également, il faut une hygiène de vie. Merci. Pour une raison quelconque, vous vous trouvez dans une période de votre vie difficile, c'est pas en négligeant le sommeil, c'est pas en arrêtant de manger, c'est pas en négligeant une vie de relation normale que vous allez sortir de l'amertume. Et donc, il faut se rappeler, ça paraît basique, mais ça joue beaucoup finalement, que tant que nous sommes dans un corps, eh bien, il y a la nécessité de s'en occuper, et si nous voulons liquider les traumatismes psychiques, il y a un minimum de base corporelle dont il faut s'occuper. Et donc, ça paraît trivial, mais Ézéchias, il a accepté d'avoir un emplâtre de figues, et en fait, l'action miraculeuse de Dieu a été liquidée. Il a été sauvé non seulement de sa maladie, mais de l'amertume qui va avec. Voilà ce que nous enseigne ce troisième passage. Alors, pour conclure, j'aimerais faire à nouveau une espèce de synthèse entre les trois. L'amertume nous rattrape tôt ou tard, mais l'important, c'est comment nous allons la gérer. Comment nous allons la gérer? Si, quand l'amertume m'atteint, je réagis par la révolte, je vais aggraver mon amertume. Si j'ai le réflexe de faire ce qu'a fait Ézéchias, ce qu'ont fait les gens de Jéricho, qui est de prier, eh bien, je recevrai la guérison de mon amertume. Pas forcément immédiatement, en temps et en heure, selon la souveraineté de Dieu, mais je recevrai ce qu'il faut. Et donc la responsabilité, c'est de comprendre que l'amertume est une ennemie pour moi, et de demander à Dieu de l'enlever, de le traiter par la prière. Et dans sa fidélité, Dieu répond, Dieu guérit, et Dieu promet. Donc non seulement il me guérit, mais il me promet que ce passage-là, il a été assaini, je ne le reconnaîtrai plus. Je ne suis plus appelé à le revivre. Également, quelque chose que je voulais dire en synthèse de ces trois passages, c'est le problème de la coloration. Quel type de lunettes vous portez? À une époque, je me rappelle, j'ai toujours porté des lunettes. Hein. À une époque, j'avais des lunettes roses. Je ne sais pas pourquoi, c'est une histoire de pouvoir arrêter du travail. Je voyais tout en rose. Alors, en essence, vous trouvez ça bien, moi je trouvais ça énervant. J'en ai changé rapidement. Quoi. Bon, si j'étais venu aujourd'hui avec des lunettes noires, très noir, eh bien, je trouverais que c'est sombre ici, d'accord ? Bon. Donc, tout le problème est de la coloration qu'elle regarde, nous jetons, sur l'existence. Alors, si je suis atteint par l'amertume et qu'en plus je me mets des lunettes noires, vous voyez un peu, je ne suis pas prêt d'en sortir. Et donc, nous sommes appelés, et c'est bien pour ça que ces passages ont été écrits, à vivre à la lumière de la promesse. La vie n'est pas facile, il faut être clair. Et plus on avance dans la vie, plus on le découvre, d'accord ? Mais nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, et donc nous pouvons vivre à la lumière de la promesse. On a des ressources, on a un capital, je dirais même un trésor, que n'ont pas les gens qui nous entourent. Et donc face à la même amertume, même type de circonstances difficiles, nous on peut le vivre mais complètement différemment. On peut vivre en ayant sur le nez des lunettes différentes. Et toutes choses étant égales d'ailleurs, les circonstances étant les mêmes, nous avons ce magnifique privilège de pouvoir tout vivre à la lumière de la promesse, qui va nous permettre de dépasser la crise, qui va nous permettre de dépasser l'amertume, qui va nous permettre d'en sortir. Et là se joue l'importance de la confession. Les lunettes que j'ai sur le nez sont importantes, mais les paroles qui sortent de ma bouche sont importantes. Vous savez, il y a l'enseignement de Jésus qui dit clairement que ce qui nous pollue, c'est pas ce qu'on ingère, mais c'est ce qui sort de notre bouche, ce qui est révélé de notre cœur. Eh bien, face à l'amertume, la confession est importante. Et je dois apprendre, quand les circonstances difficiles m'atteignent, à confesser que oui, Dieu est bon, malgré tout, malgré ce qui m'atteint. Oui, Dieu s'occupe de moi. Oui, Dieu a le regard sur moi. Oui, Dieu a la puissance d'assainir ce que, manifestement, en tant qu'homme, moi, je peux pas toucher, je peux pas gérer, je peux pas... même simplement comprendre. Dieu a la puissance d'assainir cela. Et donc je dois apprendre à vivre, et ça peut durer des semaines, des mois, dans cette confession face à la nature. Oui, je peux en sortir par la grâce de Dieu. Oui, je connaîtrai la guérison. Oui, Dieu a préparé pour moi d'autres temps, un autre horizon. Oui, quand même je baignerai dans une piscine entière d'eau imbuvable, Dieu a le pouvoir, parfois par des choses qui ont l'air triviales, de changer tout cela. De sorte que je sorte de ce bain d'amertume dans lequel j'ai été plongé malgré moi, pour rendre témoignage de la miséricorde de Dieu. Et vous savez, nos églises, là, hier, j'étais à une convention à Colmar, on était à un rassemblement pastoral, on représentait les églises du Grand Est. Et on voit bien d'une église à une autre, le terrain n'est pas le même, les problématiques ne sont pas les mêmes, la composition sociale n'est pas la même. Il y a beaucoup de variétés. Mais ce qui est très intéressant, quand vous écoutez, vous parlez aux frères et sœurs à droite à gauche, tous les gens qui ont marché avec Dieu comme ça, depuis longtemps, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous vous rendez compte que nos églises, c'est littéralement une collection, c'est un catalogue de gens qui ont connu l'amertume, comme tout le monde. Et donc, les témoignages qu'on a dans les églises, c'est ce que vous auriez si vous alliez sur le trottoir à interroger les gens. Cancer, chômage, divorce, toutes sortes de choses. Mais ce sont des gens qui ont liquidé l'amertume. Ce sont des gens qui ont liquidé l'amertume. Il y en a des gens qui se lèvent le dimanche matin, qui louent le Seigneur, avec dans le crâne des souvenirs souvent pas marrants, mais qui louent le Seigneur. Qui louent le Seigneur parce que, bon, ils ont des raisons d'eux, hein. Ils ont été sortis, ils ont été restaurés, ils ont été bénis. Mais ils louent le Seigneur aussi parce qu'ils avaient appris dans l'amertume à le faire. Et qu'ils avaient commencé à louer Dieu à un moment où ils n'avaient pas vraiment de grandes raisons de le faire. D'accord ? Et parce qu'ils étaient rentrés dans cette discipline, c'est là le rôle, évidemment, des conducteurs qui est important, cette discipline de louer Dieu malgré tout, d'affronter l'amertume par la confession. C'est parce qu'ils avaient pris cette discipline qu'ils ont, ils ont marché et ils ont triomphé et Dieu est intervenu. Et donc, c'est tout à fait intéressant d'aller dans les églises et de voir des hommes, des femmes très différents, avec des itinéraires multiples, et qui sont réunis par cette commune grâce que oui, j'ai été dans l'amertume. J'ai failli être noyé dedans. Mais Dieu est intervenu. Dieu m'a sauvé. Vous savez, souvent dans les églises, le salut c'est quoi ? C'est le pardon des péchés, quoi. On sait bien, hein, je veux bien aller au paradis avec mes péchés pardonnés, mais si c'est pour avoir vécu une vie misérable les 50 ans avant, il manque quand même quelque chose de salut, là. Et moi, je crois à un salut global, complet. Et entre autres, hein, le fait d'être sauvé de l'amertume. Alors, je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez jamais connu l'amertume, dont je doute, tant mieux pour vous. Je ne dirais pas tendez le dos, hein, mais quand même préparez-vous, parce que si vous êtes sorti de l'amertume, parlez-en autour de vous. Parce que ça vaut le coup, entre guillemets, d'évangéliser. Ça vaut le coup de faire connaître un Dieu qui nous a traités de là. Et si vous êtes dans l'amertume, eh bien, que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Qu'il vous renforce dans cette vision, et la Bible nous a été donnée pour ça, la vision de la porte de sortie. Qu'il vous renforce dans la volonté de le célébrer et de le bénir malgré tout. Qu'il vous renforce dans cette espérance. Donc, cette espèce de lunette que vous pouvez avoir sur le nez, quel que soit ce que vous ressentez en vous, à l'heure actuelle, eh bien, le Seigneur vous tirera de là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.